Bonjour et bienvenue à tous pour ce sixième numéro de Présidence, votre émission politique sur les ondes de Transistor. Cette semaine, c'est une édition un peu spéciale de Présidence que je vous propose, puisqu'en effet, nous enregistrons, loin des bâtiments gris de l'UNS, sous les ors de la République, dans le salon du consulat de l'Hôtel de Ville de Lyon. Oui, on ne se refuse rien. Il manque juste quelques coupes de champagne et ce serait parfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Du champagne, c'est pas de refus. Hein.
En effet.
Pas de refus.
Bon, alors je vais demander à Fabien qui est en régie s'il ne peut pas inclure ça dans le prochain budget. Il me fait signe que oui, c'est bon. Bref, avec toutes les équipes de Transistor, Présidence a donc déplacé son studio mobile pour couvrir pour vous le forum Libération qui se tient les 25, 26 et 27 novembre. 3 jours de débats, de conférences avec de nombreux invités, tous plus prestigieux les uns que les autres, comme François Hollande, Daniel Cohn-Bendit, José Bové, Dominique de Villepin, Umberto Eco ou Frédéric Mitterrand. Bref, il y a du lourd. Autant vous dire que ce week-end, c'est notre week-end et que cette année, le Père Noël est passé avec un petit peu d'avance. Alors, tous les petits-enfants pressés d'ouvrir leurs cadeaux sont là. Tout d'abord, Jérôme Bastic.
Bonjour à tous.
Qui anime avec moi l'interview centrale de Présidence. Puis celui qui ce soir a du pain sur la planche, Antoine Jaya.
Bonsoir.
Pour rire et sourire avec son billet d'humour et d'humeur. Et enfin, Amos Reichmann.
Bonjour à tous.
Et son carnet de campagne personnelle. Alors, juste signalons à nos auditeurs, on peut se le permettre, après tout, on est fin novembre, ça y est, on craque, que c'est la première fois qu'Amos est en studio et que pour la première fois, on a autre chose que son bonjour préenregistré, très artificiel. Alors, juste pour le plaisir, tu nous le refais.
Bonjour.
Rien que ça, ça mérite des applaudissements quand même. Bon, je disais que tu as du pain sur la planche, Antoine, puisqu'en effet, nous allons revenir sur une conférence en particulier de cette journée du vendredi 25 novembre qui a eu lieu de 16h30 à 18h avec Roselyne Bachelot et Véronique Fournier, avec pour thème « Vivre sans vieillir ». C'est donc la question de la dépendance des personnes âgées et de la maladie d'Alzheimer que nous allons évoquer. Et ce n'est pas un sujet très gai. Donc Antoine, nous comptons sur toi pour nous redonner le sourire en fin d'émission. Va falloir être bon.
On verra.
J'espère. Cette semaine, c'est un gériatre, le président de l'association Alzheimer Grand Lyon, qui a pris place derrière le micro de Présidence. Bonjour docteur Alain Lapi.
Bonjour.
Avec vous, nous allons donc revenir sur les questions soulevées lors de la conférence et en élargir les enjeux. Mais avant cela, nous allons parcourir l'actualité politique de ces dernières semaines avec Amos, qu'il fait si bien dans son carnet de campagne.
Merci Thomas. Elle l'a appelé le banquet des mille. Réunissant ses fidèles pour lancer sa campagne, Marine Le Pen n'a pas manqué son entrée symbolique. Le banquet des mille, c'était en 1948. Ils étaient mille, vichistes, qui s'étaient attablés pour condamner l'épuration qui les frappait, pour défendre leur France. On la présente souvent comme plus tolérante que son père, rassurante, ayant contribué au recentrage du parti. Mais Marine Le Pen sait d'où elle vient. Elle revendique ce passé et trace clairement le chemin qu'elle veut emprunter. Il fallait voir cette scène affolante. À la fin de son discours, où elle loua une nation forte, où elle s'acharna contre la prétendue caste dirigeante, on lui apporte un petit enfant, un an tout au plus. T-shirt I love Marine sur les épaules. Il était l'outil de la candidate. Incapable de comprendre ce qui se jouait, ce qu'il incarnait le temps d'une image, cet enfant balancé aux applaudissements extatiques de 1000 supporters marinistes, cet enfant faisait pitié. Pitié pour cette poche d'innocence souillée, cet enfant cyniquement utilisé pour une campagne électorale de l'extrême droite. Au début de son discours, Marine affirmait « Dans mon biberon à moi, il y avait le profond amour de notre patrie et de notre peuple. » Au banquet des mille, en ce jour où sa campagne devait effectivement démarrer, elle a montré que son biberon était plein d'une nauséabonde eau de Vichy, mêlée aux plus mauvaises liqueurs de l'instrumentalisation. C'est qu'on y est. Un peu plus de 4 ans que les vautours attendaient ça. La campagne présidentielle et son cortège de jeux dangereux, d'insinuations pourries. Tout est bon pour le déchaînement médiatique. Le viol et le meurtre d'une jeune fille de 13 ans, les aveux d'un récidiviste de 17 ans. Il a joué jeux interdits, la tragédie des survivants. Mais aucune pudeur, ni une ni deux, sur TF1 Guéant, sur France 2 Michel Mercier, le garde des sceaux fantômes qu'on ressort pour agiter les morts. Chasse aux récidivistes, chasse aux mineurs, chasse aux voyous, aux fous, aux psys, aux profs qui auraient forcément dû empêcher. Sarkozy n'a rien dit. Mais sur toutes les chaînes, à la télévision, à la radio, c'était son ombre qui s'offusquait, son cynisme qui planait au-dessus des interventions de ses sbires. En 2007, Sarkozy avait promis qu'à la fin de son quinquennat, il n'y aurait plus un SDF dans le pays. Pour 2012, on attend la fin des viols en France, la mort du meurtre, bref, l'abolition de la tragédie. À chaque élection, on nous ressort le même couplet. Chaque fait divers utilisé est toujours la peur comme instrument de victoire. Marine, la revoilà. profite de la tragédie pour rappeler sa promesse de référendum pour le rétablissement de la peine de mort. Chez Marine, c'est la mort qu'on promet, même si le coupable a 17 ans. On ose imaginer son sort s'il était étranger. Pour l'instant, la campagne n'est pas encore contaminée par le racisme de base. On attend avec impatience une saillie d'hortefeux. Vivement qu'on découvre 12 Maliens carbonisés dans une chambre d'hôtel.
Oh non.
Éric Besson pourra toujours dire que c'est de leur faute. À défaut des immigrés, ce sont les assistés qu'on présente comme les ennemis du dedans. Fonctionnaires en tête, sécurité de l'emploi, propension à ne rien faire, à manifester, à tomber malade plus souvent que la moyenne. C'est la crise, gare à eux. Désormais, en cas d'arrêt maladie, un jour de carence pour les salariés du public. Demain, ce sera l'impôt sur le travail pour l'État, puis la suppression des salaires des normaliens, et un jour, peut-être, la disparition des ministères de l'Éducation et de la Santé. Faut bien faire des économies. C'est Hervé Morin qui le dit. Monsieur Centre veut qu'on passe aux 37 heures. Oui, madame, les assistés en tout genre seront à la fête ces prochains mois. Et au PS, alors ? Fille de la politique politicienne, vive les idées, le débat, la démondialisation, la jeunesse, l'égalité au Forum Libération, les primaires. Et bim, nous revoilà repartis comme en 40. Parachute royale pour Ségolène à La Rochelle, sans rien demander à quiconque. Ma fille, tu seras députée, le fardeau de la femme socialiste, sûrement la récompense des larmes. Dans les négociations avec les Verts, ce n'est pas mieux. On efface un passage de l'accord pour faire plaisir à Areva, mais on envoie du flot la passionnariat verte, gagnée sans jouer chez les bobos parisiens. Et jolie, qui n'a plus que ses lunettes pour pleurer. C'est beau la politique, l'engagement, le combat pour des idées. Et Mélenchon, l'ancien camarade, qui parle de Hollande comme d'un conducteur de pédalo. Atmosphère. La situation à gauche semble bien infectée d'un air bien pourri. Comme si l'opposition avait oublié les enjeux d'un pays, d'un continent, du monde. Le chômage augmente et le désespoir croît. Le dernier espoir serait qu'on vote tous pour Poutou ou Bayrou. Eux qui n'ont pas encore trouvé ou retrouvé les délices de la pure campagne, de la démagogie et du mensonge. Car elle est retrouvée. Quoi ? La campagne, c'est la merde. Aller avec le soleil. Changer la vie, transformer le monde, c'était l'éternité. Elle est perdue.
Merci Amos. C'est une chronique vraiment sans concession. Où on aura retenu le biberon de la petite Marine et son odeur nauséabonde et le vote pour Poutou. Alors on avait dit qu'on n'affichait pas nos préférences politiques. Bon là t'es grillé. Bon alors on va revenir sur la conférence Vivre sans vieillir avec un peu plus de sérieux pour évoquer donc le thème de la dépendance des personnes âgées et de la maladie d'Alzheimer. Et pour cela, un invité, le docteur Alain Lapie.
En marge d'une conférence intitulée « Vivre sans vieillir », où sont intervenues Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale et ancienne ministre de la Santé, ainsi que Véronique Fournier, cardiologue, spécialiste de santé publique et directrice du Centre d'éthique clinique à l'hôpital Cochin de Paris, nous recevons Alain Lapie. Alain Lapie, bonjour.
Bonjour.
Alain Lapie, vous êtes médecin gériatre dans une unité de soins de longue durée attachée à l'hôpital des Charpennes, à Villeurbanne. Également médecin coordonnateur dans les unités qui prennent en charge les patients qui présentent une maladie d'Alzheimer ou un syndrome apparenté, vous êtes le président de l'association Alzheimer Grand Lyon. L'objectif de cette association est de défendre les intérêts des personnes atteintes de démence et de les soutenir, ainsi que leurs proches. Votre association se propose également de sensibiliser le corps médical ainsi que le grand public pour dépister le plus tôt possible cette maladie et pour promouvoir l'intégration et l'acceptation sociale des personnes qui en sont atteintes. Vous n'hésitez pas à vous engager sur le plan politique et tout particulièrement à prendre position en matière de politique sociale ou de politique de la santé. Alors, avant de vous interroger sur le sujet, Thomas va revenir pour nous sur la situation actuelle de l'encadrement de la maladie d'Alzheimer et de l'aide aux personnes qui en sont victimes.
Cela a commencé par de petits oublis. Rien de grave, la fatigue, pensait-elle. Mais ces oublis du quotidien sont multipliés et pour Janine, la sentence est tombée à 80 ans, dans le bureau d'un gériatre, après un test de mémoire. Vous êtes atteinte de la maladie d'Alzheimer, madame. Comme 850 000 personnes que viennent renforcer 225 000 autres chaque année, aurait-il pu ajouter. La maladie d'Alzheimer se caractérise par la perte progressive de la mémoire et des fonctions cognitives. Il n'existe pas encore de traitement curatif et les troubles liés à la maladie évoluent et s'aggravent progressivement au cours du temps. Dans les premières phases, ce sont la mémoire immédiate et le fonctionnement mental qui sont d'abord affectés. Le plus dur pour Janine, c'était de se rendre compte qu'elle oubliait. Qu'elle avait beau chercher, il y avait comme un voile noir qui, de jour en jour, s'épaississait. Elle avait beau écrire,
Consignée dans des carnets ce qu'elle faisait, on avait beau lui écrire sur des papiers ce qu'elle avait à faire, rien n'y faisait, elle oubliait. Parfois, Jeannine levait le nez de son livre et elle ne savait plus où elle était, quel moment de la journée il était, pourquoi elle était toute seule et la panique montait. Pourtant, Jeannine était rarement seule et avait la chance d'habiter chez sa fille, Valérie, qui pendant 5 ans de la maladie a mis sa vie entre parenthèses pour s'occuper de sa mère par amour. Des filles comme Valérie, des héroïnes du quotidien, il y en a des centaines de milliers et leur tâche est très dure. Il faut suppléer sa mère dans toutes les actions ordinaires où elle devient de plus en plus dépendante, s'habiller, se laver, aller aux toilettes. Comment expliquer ce qu'a ressenti Valérie devant la dégradation de l'état de sa mère si forte? Comment accepter de n'être plus vraiment la fille et de devoir s'occuper de sa mère comme une mère? Dire que ce n'est pas facile tous les jours relève de l'euphémisme. Surtout qu'avec Alzheimer, l'humeur et le comportement se dégradent. Quand Jeannine se rendait compte du gouffre qui s'ouvrait à ses pieds, quand, lucide, elle réalisait qu'elle perdait petit à petit le contrôle, elle était en colère contre elle-même et cette colère, parfois de façon violente, se reportait sur ses proches qui l'aidaient pourtant au quotidien. Si la maladie d'Alzheimer est un drame pour la personne âgée, elle peut devenir un calvaire pour ses proches qui doivent être aidés. À 84 ans, Jeannine a été placée dans une maison de retraite. Après les pertes de mémoire, survient une altération du langage. Quand Jeannine racontait sa journée, parfois des mots lui manquaient. Des mots comme « chien »,« voler », »,« rideau », des mots de tous les jours. À la fin, Jeannine ne parlait presque plus et pourtant, dans ses yeux, on pouvait voir les mots se bousculer. La maladie progresse et ce sont des troubles de l'orientation, dans le temps et l'espace qui apparaissent, ainsi qu'une difficulté à effectuer des gestes dits « élaborés », comme tenir un stylo, décrocher le combiné du téléphone. Même des gestes devenus automatiques depuis l'enfance, comme marcher, déglutir. C'est aussi une impossibilité à reconnaître des personnes proches qui se développent. Comme tous les samedis depuis un an, le petit-fils de Jeannine est venu avec sa mère voir sa grand-mère au Clos Fleury, la maison de retraite où elle a été placée. Mais ce jour-là, quand il s'est assis à côté de sa grand-mère et qu'il l'a embrassée, il a vu dans ses yeux qu'elle ne savait pas qui était ce jeune homme de 19 ans qui lui souriait, lui parlait et faisait entendre des rires sonores pour remplir de chaleur la pièce. Comme sa grand-mère ne parlait plus, il n'en a jamais rien su, et quand il est revenu la semaine suivante, dans les yeux de sa grand-mère, il était redevenu son petit-fils. Mais ce jour-là, les yeux de sa grand-mère, qu'il avait élevés, renvoyaient de lui le reflet d'un étranger, et il a ressenti une main glacée lui saisir le cœur et d'un coup sec lui arracher. Des histoires comme celle de Jeannine, il en existe beaucoup d'autres, beaucoup trop. C'est pourquoi la maladie d'Alzheimer a été déclarée priorité présidentielle et un plan Alzheimer 2008-2012 a été mis en place qui encourage les services de soins infirmiers à domicile, crée des plateformes d'accompagnement et de répit qui concentrent en un même lieu des offres différentes concernant la maladie d'Alzheimer, qui a mis en place 17 maisons de l'autonomie et de l'intégration pour les malades d'Alzheimer et qui favorise la création d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, articulé à des équipes plus spécialisées. Alors, docteur Alain Lapi, je l'ai dit, il n'existe pas de traitement curatif contre la maladie d'Alzheimer. Seuls des traitements pour en ralentir les effets existent. Alors, qu'en est-il de la recherche dans ce domaine?
La recherche de la maladie d'Alzheimer actuellement est sur plusieurs pistes et sur plusieurs champs, et c'est surtout au niveau européen. Actuellement, la maladie d'Alzheimer est en effet une maladie incurable, chronique maintenant. Et la recherche, c'est de déterminer d'abord quelle est la cause de cette maladie d'Alzheimer. Donc pour ça, il est nécessaire que les Européens se regroupent et se réunissent entre eux pour en faire une force et une dynamique. Le deuxième point important, c'est que pour qu'il y ait recherche, il faut donc qu'il y ait une banque de données. Et il est très important actuellement de dire que c'est par le cerveau de nos âgés malades que l'on pourra éventuellement prendre véritablement conscience de la maladie d'Alzheimer en examinant le cerveau sur le microscope. Alors c'est vrai qu'au moment de cette soirée, c'est un sujet que j'aborde tout de suite parce que c'est probablement une nécessité absolue que dans nos EHPAD ou dans nos soins longue durée ou dans nos hôpitaux, nous expliquions à nos familles de malades qu'en donnant, en favorisant une autopsie de leurs parents et une analyse histopathologiques des lésions sur la maladie d'Alzheimer, qui sont les plaques séniles et les lésions neurofibrillaires, il est absolument nécessaire que l'on prouve a posteriori qu'on était bien devant une maladie d'Alzheimer. Ce qui rejoint la question de tout à l'heure sur la maladie d'Alzheimer, est-il réellement une maladie ou est-ce que c'est un mythe, en reprenant la parole tout à l'heure du cardiologue.
Dans la conférence.
Il me semble très important que la recherche s'installe devant des données scientifiques absolument implacables. Et c'est vrai qu'actuellement, nous sommes plutôt dans une hypothèse de diagnostic que dans une certitude de diagnostic. Donc la recherche, c'est de pouvoir allier la réalité scientifique pour que des thérapeutiques médicamenteuses ou éventuellement des thérapies géniques dans l'avenir seront là pour pouvoir améliorer la maladie. Faire le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer, c'est évidemment actuellement difficile. C'est faire une hypothèse et pas une certitude. La seule certitude actuellement, c'est une certitude anatomopathologique, histopathologique, devant des lésions du cerveau par autopsie.
Alors, docteur Lapi, vous étiez avec nous pendant la conférence avec Roselyne Bachelot et Véronique Fournier. Pensez-vous que l'on soigne trop les personnes âgées, comme cela a pu être suggéré pendant la conférence ?
Alors, c'est vrai que je suis intervenu en réaction à ce propos provocateur, mais je comprends la provocation dans un forum, et en plus dans un forum d'un journal tel que Libération. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas aimé ce terme « je soignais trop les personnes âgées ». Parce que c'est vraiment limiter le soin à simplement un traitement médicamenteux ou éventuellement une opération, comme disait notre confrère derrière moi dans la soirée, où un patient qui a été un monsieur qui a eu un malaise en même temps qu'il mangeait et on l'a réanimé et il a vécu de manière très dépendante. Est-ce que, d'une certaine façon, en ne soignant pas son malaise, est-ce que la mort serait intervenue et il y aurait le cycle de la vie se serait accompli? Je ne pense pas vraiment qu'on soigne trop les personnes âgées. Parce que le soin, c'est prendre en soin. Prendre en soin une personne âgée, c'est l'accepter dans son continuum de vie, vie de naissance, d'adolescence, d'adulte, de vieillir et d'âger, pour que l'on puisse prendre conscience de la dynamique de la personne âgée. Et si en effet on considère que la personne âgée c'est un âge chronologique, 60, 65, 70, 75, alors ça n'a aucun sens. Mais prendre en dynamique la personne âgée, c'est en prendre l'histoire de la vie de cette personne et donc soigner, non pas forcément l'âgé, mais soigner l'histoire de la vie de la personne.
Le président Nicolas Sarkozy a décidé, comme il l'avait annoncé lors de la campagne de 2007, de faire de l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer une priorité nationale. Aujourd'hui, quel bilan pouvons-nous tirer du plan Alzheimer 2008-2012 ?
Alors, notre confrère cardiologue n'a pas voulu répondre à cette question que vous lui avez posée, hein, j'étais là. Je considère, moi, sans polémique particulière, que le plan Alzheimer qu'a annoncé et a évalué le président Sarkozy est une très grande avancée sur le plan de la prise en soin de la personne âgée qui est atteinte d'une maladie d'Alzheimer. Nous n'avons pas le droit, sous prétexte qu'on n'est pas forcément d'accord avec la politique actuelle du président Sarkozy, nous n'avons pas le droit de globaliser la négativité sur l'action du président actuel sur le plan Alzheimer. Le plan Alzheimer est, à mon avis, une avancée très importante. Avancée sur un plan des moyens et financiers, mais surtout, de favoriser le lien entre nous tous, ce qui a été vraiment depuis quelques années la règle d'or de pouvoir se relier entre nous, soignants et psychologues et éventuellement soins à domicile.
Pour les familles, s'occuper d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer est souvent très lourd. Quelles sont les solutions qui existent concrètement pour aider les proches ?
Alors, c'est une question très importante. C'est dans notre jargon médical, on parle de parcours de soins. Hein. On sait que dans le parcours du soin du patient, à domicile, la maladie d'Alzheimer, au début de cette maladie, n'est pas une catastrophe. Et si vous voulez, tout à l'heure, peut-être que vous me posez la question de, et j'aimerais que vous me la posiez, c'est pour ça que je pense que ça, pour savoir comment moi je ressens la maladie d'Alzheimer en tant que gériatre, je vous donnerai mon approche.
Allez-y. Hein.
Je pense que c'est une maladie qui n'est pas aussi dramatique qu'on veut bien le dire. C'est une maladie qui est, certes, les termes que sont utilisés, le fléau, la catastrophe, etc. Personnellement, 15 ans de gériatrie, c'est une maladie qui m'a enrichi profondément et qui m'a fait connaître le meilleur de moi-même en tant que gériatre, mais je ne suis pas le seul. Tous ceux qui s'occupent de la maladie d'Alzheimer sont meilleurs soignants qu'ils ne l'étaient avant, parce qu'ils trouvent dans cette maladie toute la richesse et toute la perception et toute l'émotion de ces patients et toute l'histoire de la vie de nos âgés qui ont peut-être perdu la mémoire, mais qui, sur un plan de la vie, n'ont pas été qu'un malade d'Alzheimer. Et moi, je considère que cette maladie, c'est une richesse, même si c'est provocateur ce que je dis, c'est une richesse que l'on a, nous. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne parlent pas comme nous, qui n'ont pas le même vocabulaire que nous, qui n'ont pas la même rhétorique, la même sémantique que nous. Et donc, nous sommes, nous, formatés dans un langage, dans une rigueur. Nous savons ce que les mots veulent dire à peu près. Eux, ils ne le savent peut-être pas, mais ils expriment leurs sentiments, leurs émotions d'une autre manière, beaucoup plus archaïque. Et c'est probablement là le sens de la difficulté de s'en occuper. Et c'est là également l'aventure que représente l'accompagnement d'un patient qui présente une maladie d'Alzheimer.
Le gouvernement encourage aussi de plus en plus la prise en charge de la maladie d'Alzheimer à domicile. Vous avez évoqué cette forme de prise en charge. Oui. Pensez-vous que ce soit une meilleure solution que l'hébergement en centre spécialisé ?
La question est très importante, c'est-à-dire qu'on pense qu'en effet, les malades d'Alzheimer voudraient continuer à vivre à domicile le plus longtemps possible. Réellement, je pense que le domicile est probablement le meilleur lieu de l'évolution de la maladie d'Alzheimer, au sens où cette évolution sera peut-être moins rapide si les structures d'accompagnement dans la maladie sont présentes. Une personne qui n'est pas isolée et qui est associée à un tissu familial, un tissu relationnel, un tutorat familial très important et très bien présent, pourra avoir une maladie d'Alzheimer moins évolutive et éventuellement stabiliser et vivre absolument presque normalement comme tout le monde.
Merci docteur Alain Napi. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'association Alzheimer Grand Lyon, que l'on peut contacter au www.alzheimergrandlyon.fr et dont les coordonnées complètes seront sur notre site internet avec l'adresse et le numéro de téléphone pour vous contacter. Parfait. D'autres associations également peuvent être contactées, comme évidemment l'association France Alzheimer et maladies apparentées, qui a été créée en 1985 et dont le numéro national est le 811-112-112. La fondation Médéric Alzheimer et son site internet www.fondation-médéric-alzheimer.org ou encore l'ONG Alzheimer Europe, dont le site internet est www.alzheimer-europe.org. Alors la lutte contre la maladie d'Alzheimer, c'est au quotidien de la part des soignants et des aidants, mais devant l'ampleur du phénomène, une journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer a été instaurée. Elle a lieu tous les 21 septembre. Merci encore Alain Napi.
Merci.
De rien, merci à vous.
Si Présidence prend le temps d'évoquer des sujets de fond, pas forcément toujours joyeux, comme nous venons de le faire sur la question de la dépendance avec Alain Napi, qui est resté avec nous pour la suite de l'émission. Présidence est là également pour pointer du doigt tous les coups bas, manipulations, contre-vérités, polémiques et petits travers de nos hommes et femmes politiques. C'est la rubrique Alerte Rouge. Michel Sapin, ancien ministre de l'économie, ami de François Hollande depuis l'ENA, qui coordonne les experts de son équipe de campagne, trouve logique l'actuelle baisse du candidat socialiste dans les sondages, qualifiant dans Le Parisien cette dépression de « moment naturel post-coïtal ». Poète du soir, bonsoir. Moment naturel
post-coïtale. Michel Sapin nous annonce donc qu'en ce moment, François Hollande débande. Ceux qui le trouvent mou auront compris pourquoi. Si François Hollande en est déjà à son moment naturel post-coïtal, espérons pour lui qu'il retrouvera un peu d'ardeur d'ici 6 mois et les élections présidentielles, ou qu'un de ses collaborateurs récupérera pour lui les stocks de Viagra oubliés par Silvio Berlusconi dans les couloirs du Palazzo Chigi à Rome. En effet, en politique aussi, quand on part trop vite et qu'on ne tient pas la distance, on reste un éjaculateur précoce qui n'a aucune chance d'avoir un orgasme le 6 mai 2012. Michel Sapin nous annonce donc que François Hollande débande. Espérons pour le Parti Socialiste que ce ne soit pas le début de la débandade. Sur son compte Twitter, Corinne Lepage, fondatrice du mouvement CAP 21, déclare « Je serai dans cette campagne la candidate crédible défendant une réindustrialisation de la France par la sortie du nucléaire. » Après Marine Le Pen et sa solution miracle de la sortie de la zone euro, Corinne Lepage vient donc d'inventer la solution miracle des bobos écolos qui achètent du saucisson bio, la sortie du nucléaire. Défendre l'idée que la sortie du nucléaire entraînerait une réindustrialisation de la France, cela ne risque pas de faire de Corinne Lepage une candidate crédible. Mais une candidate démago qui empile les raccourcis mensongers jusqu'à en faire du compost, ça oui. Bien sûr, Corinne Lepage songe aux emplois qui seraient créés par les industries vertes, véritable messie dont la naissance est tant attendue. D'ailleurs, au pied de son sapin, la crèche de la petite Corinne est équipée de panneaux solaires, Marie a été remplacée par une éolienne et Joseph par une centrale thermique. Mais Corinne Lepage semble oublier que la sortie du nucléaire détruirait 100 000 emplois, alors que dans le même temps, Europe Écologie Les Verts annonce que les industries vertes ne créeraient qu'un nombre d'emplois équivalents. Les pertes seraient donc compensées, mais on est loin de la réindustrialisation de la France, annoncée par la candidate crédible Corinne Lepage, qui imagine déjà l'Hexagone concurrencer les tigres asiatiques, le Brésil ou la Chine, même pas peur. Mais bon, après tout, Corinne Lepage est une candidate aussi crédible que Jean-Pierre Chevènement. On n'a plus qu'à aller chercher Christiane Taubira et à retrouver la vieille Arlette, et nous revoilà en 2002. Hein. Attention, loin de moi l'idée de défendre le vote utile. Même si le but de Corinne Lepage dans la vie est de dépasser la barre des 2%, toutes les idées doivent pouvoir s'exprimer, surtout quand elles sont aussi pertinentes. La semaine dernière, dans les médias, on ne parlait que de ça. Des tractations entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. L'objectif était de permettre les conditions du ralliement des écologistes entre les deux tours et de se partager les circonscriptions en vue des élections législatives. Mais l'accord entre les deux partis a échoppé sur la question du nucléaire et notamment du MOX. Alors, dans tous les médias, on a eu droit à des déclarations surréalistes, comme celle de Cécile Duflo sur France 2. Il ne s'agit pas d'un accord partiel, il s'agit d'un accord avec certains points qui sont actés comme étant un désaccord. En gros, ils ont fait un accord pour tomber d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord. D'accord ? En tous les cas, je tenais à rendre hommage au grand sens moral et aux convictions inébranlables de Cécile Duflo, qui, en début de semaine dernière, déclarait plutôt n'avoir aucun député que renier ses convictions. Et qui, en fin de semaine dernière, essayait de masquer le fait que ses convictions étaient passées derrière les circonscriptions. Dans Les Échos, François Bayrou déclare « Je ne suis pas dragable. » Bayrou qui fait sa mijaurée, sa femme fatale inaccessible, on aura tout entendu. La vraie question serait plutôt mais qui voudrait draguer François Bayrou ? En politique, j'ai beau chercher, je ne vois pas. À part peut-être Dominique Strauss-Kahn qui, quand il est question de drague, et plus si affinité, et d'ailleurs de même si pas affinité, est toujours partant. Je ne suis pas dragable. François Bayrou restera donc vierge de toute alliance politique, attendant le mariage tant espéré avec l'Élysée, dans sa belle robe blanche immaculée, qui, au moins, au soir du premier tour, lui servira de grand mouchoir pour pleurer. Mais François Bayrou pourra se consoler. Il aura été au moins plus crédible que Corinne Lepage, et ça, c'est déjà bien. Terminons par cette déclaration d'Eva Joly dans Le Monde, qui prouve encore une fois qu'elle a de l'humour et de l'esprit. « Je ne patine pas, bien que mes origines nordiques me conduisent à aimer les sports de glisse, je suis une skieuse de fond, je vais à mon rythme et je trace mon chemin. » Le grand philosophe Gérard Jugnot a dit « Le rire comme les essuie-glaces permet d'avancer même s'il n'arrête pas la pluie. » Notre essuie-glace à nous n'a rien à envier à un parapluie. Peut-être qu'il n'arrête pas la pluie, mais il nous réchauffe le cœur.
Oh.
Voici Antoine Jaillat qui a l'air ravi d'avoir été promu essuie-glace et son billet d'humour.
Effectivement, c'est une grosse responsabilité. Oui, le sujet qu'on a abordé aujourd'hui n'était pas très drôle. Mais ce qui est encore moins drôle, c'est la promesse non tenue du candidat Sarkozy, la fameuse grande réforme de la dépendance, est passée à la trappe. Mais peut-être, et sans jeu de mots aucun sur la maladie d'Alzheimer, a-t-il tout simplement oublié, car la classe politique est frappée d'amnésie ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils nous font exactement la même campagne qu'en 2007. Preuve à l'appui, à gauche, le porte-parole d'Eva Joly démissionne en pleine campagne, un peu comme Besson en 2007. Surveillons-le, peut-être qu'on le retrouvera plus tard dans le staff de campagne de Jean-François Copé en 2017. Chez les socialistes, notre bon... maire de Lyon, Gérard Collomb, ce Che Guevara de la gauche molle, plus flambiste que Flamby lui-même, trouve le récent accord avec les écologistes trop à l'avantage de ces derniers, à épingler François Hollande. Un peu comme Ségolène Royal qui avait été critiquée par son propre parti en 2007. À droite, c'est encore meilleur. L'UMP nous parle de TVA anti-délocalisation. Exactement comme la TVA sociale de 2007, mais avec un nom qui fait un petit peu moins peur. Et Marine Le Pen fait exactement comme son père à chaque fois qu'il s'était présenté. Elle nous raconte que les maires sont méchants et ne veulent pas lui donner ses 500 signatures. Bientôt, elle se fera poser un œil de verre. Son ex sera posé nu pour des journaux étrangers. Et elle lancera la carrière de sa fille en politique, Marie-Jeanne Le Pen. Oh, mes amis, inutile de se fatiguer. Nicolas Sarkozy, malgré une rupture difficile avec Carla Bruni, va gagner avec 53% des voix face à Hollande, complètement essoufflé dans les sondages après que, sur la Grande Muraille de Chine, il aura essayé de manière très maladroite de créer un néologisme à partir de l'adjectif « brave ». Tout n'est que remake et reprise. Luc Chatel a récemment comparé François Hollande à Babar et Nicolas Sarkozy à Astérix. Mais en 2007, Jamel Debbouze avait déjà comparé l'actuel chef de l'État à un héros de bande dessinée. C'était le bandit Joe Dalton. Et sans vouloir me la jouer, c'était mieux avant, on voit quand même qui est l'humoriste et qui ne l'est pas. Astérix, franchement. À part la taille et la potion magique, je viens d'avoir un bébé, aucun rapport. Alors que Joe Dalton, ça colle vachement mieux. Petit, colérique, chef de bande, autoritaire, qui ne pense qu'à lui, et hop, 170% d'augmentation, qui habite dans une grande maison bien gardée et loin de la société, c'est parfait. Avec Joe Sarkozy, William Fillon, Jack Copé et Avrel Devedjian. Oui, Devedjian, parce qu'il est grand, que ce n'est probablement pas le meilleur d'entre eux pour paraphraser Chirac, et surtout parce que tout le monde s'en fout. Pas très loin d'eux, on voit rôder par contre une ombre beaucoup plus effrayante. C'est le croque-mort chauve à la tête jaune. Ce cynique qui se réjouit de la mort des autres car il en tire quelques dollars, c'est Claude Guéant. Rien de tel qu'un bon meurtre d'enfant pour relancer le combat usé jusqu'à la corde de l'insécurité et des violeurs récidivistes comme en 2007 et 2002. Et dans cette bande dessinée, François Hollande, c'est celui qui leur court après inlassablement. Arpentant le Far West de long en large, faisant fi des obstacles et des embûches jonchées sur son chemin de poussière et de solitude, se dressant contre les injustices dès qu'il en est capable. Oui, oui, chers auditeurs, François Hollande, c'est bien évidemment ce personnage central, rentre en plan, le chien le plus bête de l'Ouest avec sa mine ô combien ahurie, mais diablement attachante au demeurant. Le problème dans tout ça, c'est qu'on cherche quand même toujours l'équilibre.
Merci Antoine. Bon alors, Paris réussit de nous faire rire en fin d'émission. Bravo.
Super.
Alors notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Alain Lapi, d'être resté en studio. Merci également à Xavier, Mathias et Mehdi pour la technique. On ne les remercie jamais assez, c'est l'occasion de le faire. Et merci aussi à Inad et à Fabien qui étaient aussi là dans la technique. Parce que sinon ils ne vont pas me prendre le champagne, donc... Je suis obligé de les remercier. Pour réagir et suivre l'actualité de votre émission préférée, vous pouvez ajouter Présidence parmi vos amis sur Facebook. Comme Présidence couvre pour vous le Forum Libération dans son intégralité, avec toutes les équipes de Transistor, nous vous concoctons donc de belles émissions spéciales avec de nombreux invités pour occuper vos soirées de décembre en attendant patiemment le Divin Enfant. Alors pour couvrir le Forum Libération, notre directeur du pôle actu et politique, oui ça en jette comme titre, hein, Thibaut Sardieu, oui c'est bien aussi, a eu l'idée d'organiser tous les soirs, après les dernières conférences, des tables rondes pour revenir sur les riches débats de la journée. C'est à écouter et à réécouter sur Transistor. Alors je vous laisse en bonne compagnie avec toutes les autres émissions de Transistor et notamment le deuxième numéro de l'émission Des murs et des oreilles présenté par Alice Jacquelin et Louis Jacobet et qui a pour titre Voter ou s'indigner. L'émission a été diffusée au début du mois de novembre mais est toujours disponible dans la rubrique Actu. Je dédie cette émission qu'il me tenait très à cœur de vous présenter à ma grand-mère qui, je l'espère, aurait été très fière de l'écouter. À bientôt et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.